Vous écoutez, on lit pour vous.
Repenser l'éthique à l'ère du numérique, un texte de Fabrice Ville, paru le 2 juillet 2025 dans la presse. En mai 2025, la journaliste Alexandre Drolet a annoncé qu'elle quittait Radio-Canada pour se consacrer à sa chaîne YouTube d'information. Parce que Mme Drolet a choisi de générer des revenus avec des commanditaires et du placement de produits, sa nouvelle aventure professionnelle a éveillé plusieurs débats concernant les contours du journalisme. La YouTubeuse, qui a baptisé sa marque « Alexplique », s'est montrée peu intéressée par ces questions, affirmant qu'elle se fout du titre professionnel qu'elle portait jusqu'ici. « Je ne serai plus journaliste, au pire », a-t-elle lancé à l'émission web « Les engagés publics ». Tout en soulignant que sa formation journalistique constitue un avantage, Mme Drolet se définit plutôt, sur son site web, comme une animatrice et créatrice de contenu. Son titre importe-t-il? En prenant un pas de recul, j'ai l'impression que la qualité de l'information qui circule dépend de l'éthique civique de tous ceux qui la diffusent et pas strictement d'une profession exclusive. En fait, en 2025, à peu près tout individu peut être un véhicule d'information. Certains parlent de journalisme citoyen. Le journalisme, contrairement aux professions protégées par un ordre, ne requiert pas des connaissances de pointe. Dans le passé, le quatrième pouvoir était concentré au sein d'institutions médiatiques, communiquant par la télé, la radio et les journaux, une sorte d'oligopole face auquel le public était principalement confiné au rôle de récepteur. Depuis l'Internet, les murs des médias sont moins étanches. Alors qu'auparavant, une personne seule ne détenait aucun moyen de diffusion de masse, n'importe qui est maintenant capable de rejoindre, par un seul clic, des milliers de personnes. L'acte journalistique, qu'il s'agisse de rapporter des faits ou d'émettre une opinion, s'est démocratisé. S'il y a des avantages liés à ce phénomène, il mène aussi à plus de désinformation, de mésinformation et de malinformation. On invoque souvent le regard critique requis pour déceler les fausses nouvelles, mais on insiste peu sur les devoirs civiques de Monsieur et Madame Tout-le-Monde en tant que diffuseurs d'informations. Quel genre d'éthique s'impose? Pour le savoir, on peut s'inspirer de principes comme ceux du guide de déontologie journalistique du Conseil de presse du Québec. Même s'il est rédigé pour les journalistes professionnels et les médias traditionnels, il offre des orientations qui, à quelques nuances près, sont pertinentes pour quiconque cherche à publier de l'information de façon responsable. Puisqu'à l'ère numérique, le marketing d'influence est en vogue, les dispositions du guide concernant les conflits d'intérêts méritent une attention particulière. De plus en plus, la voix, la personnalité, la crédibilité et le réseau de personnes qui détiennent ce qu'on appelle de l'influence sont utilisés à des fins commerciales. Or, l'acte journalistique se veut libre de tels intérêts. On peut donc difficilement être rémunéré pour promouvoir des services ou produits tout en prétendant offrir de l'information indépendante sur des sujets liés à ces services, ces produits ou les entreprises en cause. Il en va de la confiance en l'information véhiculée. Même les organisations médiatiques peuvent être directement ou indirectement influencées par les intérêts de leurs propriétaires ou bailleurs de fonds. D'ailleurs, elles font parfois l'objet de critiques en ce sens. Si ces médias, qui sont généralement dotés de murailles préservant leurs journalistes des conflits d'intérêts, peuvent être biaisés par des pouvoirs financiers, un journaliste ou créateur de contenu seul met davantage son indépendance à risque s'il tente des partenariats commerciaux, surtout s'il offre de la visibilité en contrepartie de dollars. À la lumière des sources de revenus que Mme Grollet a annoncées, je me demande comment elle évitera de compromettre son indépendance. J'interprète qu'elle entend divulguer ses intérêts financiers et laisser aux internautes qui regarderont ses vidéos le choix de la suivre ou non. En matière de conflit d'intérêts, elle semble juger que son travail est bien fait si les gens qui regardent ses vidéos sentent qu'ils apprennent, ne se sentent pas bernés, sentent qu'elle est authentique et sentent qu'ils peuvent se faire leur propre opinion. Ce point de vue n'est pas sans mérite, mais il me semble important de rappeler que l'éthique ne repose pas seulement sur la subjectivité et le libre arbitre de chacun. Même si on désire se démarquer des règles traditionnelles des institutions, un certain cadre commun est nécessaire. Sinon, on s'approche de ce qu'on appelle en bon français un « free-for-all ». Si Mme Drollet ne souscrit pas à des normes déontologiques reconnues, il serait pertinent qu'elle dévoile les paramètres éthiques qui balisent son travail. Cela est d'autant plus important qu'au sein de nos démocraties, la confiance est fragile. Au Québec, 65 % des répondants au baromètre d'Edelman font confiance aux médias traditionnels. Toutefois, 62 % des répondants à ce sondage craignent que les journalistes et reporters tentent délibérément de tromper les gens en disséminant de l'information qu'ils savent erronée ou largement exagérée. Pour renverser la vapeur, les médias traditionnels ont leur rôle à jouer, mais aussi toutes les personnes qui diffusent de l'information. Sur ce point, Alexane Drollet occupe une place avant-gardiste puisqu'elle crée du contenu en misant sur la rigueur résultant de sa formation journalistique. Tout en saluant sa nouvelle aventure entrepreneuriale, j'ose espérer qu'elle montre l'exemple en matière d'éthique. C'était « Repenser l'éthique à l'ère du numérique », un texte de Fabrice Ville, paru le 2 juillet 2025 dans la presse.
Qui a les moyens d'acheter une fraise à 28 $? Un texte de Bernard Lavallée, paru le 26 avril 2025 dans Le Devoir. Montée sur un présentoir, puis recouverte d'une cloche transparente, affublée d'un prix exorbitant et vendue dans des magasins chics, tout porte à croire que je parle ici d'une bague. Pas du tout. Ce nouvel item de luxe qui envahit les médias sociaux est une simple fraise. Appelez-moi Nostradamus Lavallée. En 2018, j'ai été invité par le magazine Caribou, qui s'intéresse à la culture culinaire québécoise, à titre de rédacteur en chef d'un numéro portant sur le futur. Nous nous projetions en 2048 en tentant d'imaginer à quoi ressemblerait notre alimentation. Avec mon amie photographe Katia Konyukova, nous avions présenté un essai photographique intitulé « Chers aliments ». Campé dans un monde surpeuplé aux ressources polluées, nous imaginions que les aliments frais deviendraient des denrées de luxe réservées aux 0,01% des gens les plus riches de la planète. Une des photos présente une fraise dans une assiette aux bordures dorées, accompagnée de deux bleuets et d'une tige de menthe. Des mains s'apprêtent à la découper avec des ustensiles pour la déguster en quelques miniatures bouchées. Ce projet visait à mettre en lumière les inégalités qui s'accentuaient dans notre système agroalimentaire. Jamais je n'aurais pu imaginer que nos prédictions se matérialiseraient si rapidement. De Kyoto à Los Angeles en jet privé. Dans les dernières semaines, la chaîne d'épicerie de luxe Air One, installée uniquement aux États-Unis, a encore réussi à faire parler d'elle à cause des prix faramineux de ses produits. Le plus récent en liste, une fraise unique vendue à 20 US, soit près de 28 canadiens. Mais qu'est-ce qui peut expliquer qu'on exige un tel montant? Il faut d'abord savoir que ces fraises sont cultivées au Japon et vendues par la compagnie Eli Amai, qui se spécialise en fruits luxueux. Leur melon se détaille d'ailleurs à 95 US l'unité, si jamais ça vous intéresse. Ces fameuses fraises appartiennent à un cultivar relativement récent, nommé Tochiaika, développé pour procurer une expérience exceptionnelle aux consommateurs. Après la récolte, celles-ci sont emballées comme des bijoux, montées sur un présentoir et recouvertes d'une cloche de plastique. Sucrées, juteuses et parfumées, elles voyagent rapidement en avion pour atterrir sur les tablettes du Air One alors qu'elles sont à leur pic de perfection. Sur TikTok, plusieurs ont profité du hip pour s'afficher en train de la déguster. Tellement, d'ailleurs, qu'elle était souvent en rupture de stock. En effet, plus qu'une expérience personnelle, manger cette fraise, c'est un symbole de notre statut social. C'est montrer aux autres qu'on est capable de se payer un tel luxe. Dans les vidéos, plusieurs personnes considèrent que c'est la meilleure fraise qu'elles ont mangée de leur vie. Je pense qu'à ce prix, je dirais la même chose, juste pour ne pas pleurer d'avoir gaspillé mes économies. Une fraise, deux réalités. On s'entend. Cette fraise reste un cas anecdotique. Si vous ne voulez pas trop vider votre petit cochon, il y a toujours moyen d'en trouver d'autres à moindre prix. Cela dit, pour moi, la montée en popularité d'Air One et de ses aliments de luxe, qui prévoit d'ailleurs ouvrir de nouveaux magasins cette année, est un signal d'alarme auquel nous devons porter attention. Parce que pendant que les jeunes au budget élastique s'amusent à croquer cette fraise à pleine bouche pour leurs abonnés, les aliments sont devenus inaccessibles pour une part grandissante de la population. Les statistiques sur l'insécurité alimentaire ne font que s'aggraver. La population crie de plus en plus famine. Les banques alimentaires ne fournissent plus à la demande. Cette fraise bijou est une représentation concrète du fossé qui se creuse entre les classes sociales. Selon les données de l'organisme Alima, qui accompagne des femmes enceintes en situation de vulnérabilité, le prix d'une seule fraise Dear One représente presque le budget nécessaire pour nourrir adéquatement une famille de 3 personnes pour une journée. Si cette tendance se poursuit, on peut très bien s'imaginer un avenir rapproché où, d'un côté, les riches seront les seuls à pouvoir acheter des aliments bio, locaux et frais, cultivés avec soin pour procurer une expérience optimale. Et de l'autre, tout le reste de la population qui devra se résoudre à une diète d'aliments ultra transformés, produits en exploitant la nature et les travailleurs, et possiblement récupérée dans une banque alimentaire. L'existence même d'une fraise à ce prix me fait penser à une expérience sociale, comme une grande blague de la part des supermarchés pour voir jusqu'où ils peuvent faire grimper la facture sans conséquence. Personnellement, je ne la trouve pas drôle. C'était « Qui a les moyens d'acheter une fraise à 28 $ Un texte de Bernard Lavallée, paru le 26 avril 2025 dans Le Devoir.
Notre sélection de nouvelles environnementales d'ici et d'ailleurs. Un texte de Sarah Champagne, paru le 9 juin 2025 dans la presse. Quiz. Quel être à sang chaud a le potentiel de polluer l'eau durant des semaines lorsqu'il se baigne? A. L'humain. B. La baleine. C. La poule. D. Le chien. Réponse. D. L'eau est polluée durant des semaines si votre chien saute dans une rivière, un lac ou un étang après avoir reçu un traitement contre les puces. Des chercheurs de l'Université du Sussex au Royaume-Uni sont catégoriques. Mieux vaut tenir pitou loin d'un cours d'eau jusqu'à 28 jours après un traitement. Pour en venir à ces conclusions, des chiens qui avaient été traités il y a 5, 14 et 28 jours ont été immergés durant 5 minutes jusqu'aux épaules dans des bacs stériles d'eau claire. Les taux de pesticides mesurés, fipronil, un insecticide, ont révélé qu'un seul gros chien peut nuire à la santé des poissons et de la faune aquatique. Le Japon protège ses travailleurs des canicules. Le Japon exige maintenant la protection des travailleurs lors d'extrêmes chaleurs. Les entreprises fautives sont passibles de sanctions et d'amendes. La loi, en vigueur depuis le 1er juin, concerne surtout le secteur manufacturier et la construction. C'est une mesure exceptionnelle au pays du soleil levant où le gouvernement n'a pas l'habitude de se mêler des droits des travailleurs. Mais 30 morts et 1200 blessés liés à des températures élevées sur le lieu de travail sont survenus en 2024, selon le ministère de la Santé du pays. L'Organisation internationale du travail a déjà révélé qu'un travailleur perd la moitié de sa capacité entre 33 degrés Celsius et 34 degrés Celsius. 0,001% des fonds marins. Les fonds marins demeurent moins explorés que le sol lunaire, même s'ils sont d'une importance capitale pour limiter le réchauffement de la planète. Selon une étude publiée dans la revue Science Advances, à peine 0,001% des fonds ont été scrutés de près depuis le début des expéditions océaniques dans les années 1950. Sur 44 000 plongées dans les grands fonds répertoriés depuis 1958, plus de la moitié, 65%, ont été menés sur de petites superficies au large des côtes des États-Unis, du Japon ou de la Nouvelle-Zélande. Dans les circonstances, il est hasardeux d'estimer l'impact de l'exploitation minière sur les écosystèmes des grands fonds, estime l'auteur principal de l'étude, la chercheuse américaine Cathy Croft-Bell de l'Ocean Discovery League. Un nouveau-né, un arbre. Jusqu'au 27 juillet, la ville de Boucherville souligne l'arrivée d'un nouvel enfant sur son territoire en offrant un arbre à sa famille. Les arbres ornementaux offerts sont rustiques et peu sensibles aux insectes et maladies. Ils sont livrés directement à la porte et offerts dans un pot. Cette tradition de la municipalité a permis depuis 2010 de planter 802 arbres pour léguer un environnement plus vert aux prochaines générations. Les familles doivent s'engager à le planter et à en prendre soin. Le programme s'adresse aux citoyens qui ont adopté un enfant ou donné naissance à un enfant en 2023 ou après. Reforestation au Panama. Au Panama, un programme de reforestation ambitionne de garantir des revenus à une trentaine de familles autochtones. Le projet couvre 100 hectares, 247 acres, dont le district rural de Nouroum, là où les pins et les tecs ont été rasés pour fabriquer des sculptures et des meubles, puisque ce sont des essences de bois d'une grande valeur qui se vendent à prix d'or. Le projet est co-dirigé par des chefs traditionnels et l'Institut de recherche Smithsonian Tropical, STRI, avec une subvention du Centre mondial sur la biodiversité pour le climat. Le but est de planter un mélange d'arbres indigènes qui promettent au moins 20 ans de revenus pour le carbone séquestré. C'était notre sélection de nouvelles environnementales d'ici et d'ailleurs. Un texte de Sarah Champagne, paru le 9 juin 2025 dans La Presse.
Célébrer pour résister. Une chronique d'Yves Lafontaine, parue le 9 août 2025 dans le magazine Fugue. Chaque été, au Québec comme ailleurs, les rues se parent de drapeaux multicolores, les scènes s'animent de musique, de discours, d'artistes et de drag queens, et des milliers de personnes queer et alliées défilent dans une ambiance survoltée. Pour certains, certaines, ce déferlement de joie et de paillettes peut paraître frivole. Pourtant, dans un climat politique de plus en plus polarisé et conservateur, l'aspect festif des festivals de la fierté demeure, en soi, un acte profondément politique. Une tradition de résistance joyeuse. Les premières marches ont eu lieu en commémoration des émeutes de Stonewall. À Montréal, cette commémoration s'est tenue pour la première fois en 1979. Ce n'était pas une parade, mais une courte marche qui s'est terminée par un pique-nique au Square Saint-Louis la première année, puis au Parc La Fontaine par la suite. Or, dès les premières années, la fête s'est invitée dans les cortèges. Slogans militants et chorégraphies disco cohabitaient dans une volonté commune de visibilité et d'affirmation. La joie, l'exubérance et la provocation sont alors devenues des armes, des réponses à une société qui invisibilisait et criminalisait. Encore aujourd'hui, danser dans la rue, assister à un concert en tenant la main d'un ou d'une partenaire du même genre, défiler en robe à paillettes ou scander des slogans, vivre sa réalité sans honte demeure un geste subversif dans bien des contextes. Fierté, visibilité et légitimité. Un festival comme celui de Fierté Montréal permet d'abord une prise d'espace. Il revendique le droit d'exister, haut et fort, dans un espace public encore trop souvent hostile ou normatif. Pour les personnes trans, non-binaires, intersexes, non conformes à la norme ou en questionnement, cette visibilité peut être salvatrice. Elles montrent qu'elles ne sont pas seules, qu'une communauté les soutient, qu'il est possible d'exister autrement, de vivre pleinement et fièrement sa vérité. La fête devient alors une affirmation identitaire, un refus de se cacher, et surtout une revendication. Nous sommes là et nous n'avons pas l'intention de disparaître. Quand la fête défie le conservatisme. Depuis quelques années, un vent conservateur souffle sur plusieurs régions du monde, y compris en Amérique du Nord. Au Québec, on observe une montée des discours transphobes dans les médias, un certain recul des politiques inclusives et des « i » et une banalisation inquiétante des attaques contre les droits des personnes LGBTQ+. C'est précisément dans ces moments de recul que la fête devient nécessaire. Elle rappelle que la communauté refuse de se laisser dicter ses humeurs ou ses modes d'expression par des forces oppressives. Célébrer quand on nous dit d'avoir honte, danser quand on voudrait nous faire taire, aimer quand on voudrait nous diviser, tout cela est politique et essentiel. Une scène pour les luttes trans et non-binaires. L'un des grands défis de notre époque demeure la reconnaissance pleine et entière des droits des personnes trans et non-binaires. Ces dernières années, elles ont été au centre de campagnes de désinformation et de haine. Pensons aux spectacles ou lectures de contes de drague, aux toilettes non-genrées, à l'écriture inclusive, aux politiques DDI, souvent orchestrées par des groupes conservateurs d'ici et d'ailleurs. L'accès aux soins de santé, à des papiers d'identité adéquats, à la sécurité dans les écoles et les lieux publics reste un combat quotidien, comme en témoigne le récent rapport du Comité de Sages. Dans un festival de la fierté, la scène devient un véritable podium de visibilité. Les artistes prennent le micro. Les organismes communautaires rencontrent le public. Les alliés écoutent, apprennent, relaient. La fête offre une plateforme médiatique et sociale que peu d'autres événements peuvent égaler. Elle permet de montrer la pluralité des expériences trans, non-binaires et plus largement LGBTQI+, leur lutte, bien sûr, mais aussi leur joie, leur amour, leur créativité. Le pouvoir de la joie collective. À une époque marquée par le cynisme, la division, la peur et les tentatives d'instrumentalisation de la fierté, la joie collective devient une forme de soin et de réparation. Elle guérit les traumatismes, tisse des solidarités, ouvre des espaces de dialogue. Les festivals de la fierté, comme l'ont été divers cités et Fierté Montréal depuis 2007, créent des moments où de jeunes personnes queer découvrent, souvent pour la première fois, un monde où leur existence est célébrée et non simplement tolérée. Cela ne signifie pas que la fête remplace la lutte. Au contraire, elle l'amplifie. Elle la rend désirable, accessible, contagieuse. Elle permet à des membres des communautés 2SLGBTQIA+, qui ne se reconnaissent pas tous dans les formes traditionnelles de militantisme, pétitions, manifestations, boycotts, sit-in, die-in, conférences de presse, de s'engager autrement, d'écouter un discours pendant un show drag, de signer une pétition entre deux concerts, de faire un don après avoir vu passer la banderole d'un organisme, de découvrir un groupe qui milite pour une cause chère à nos yeux. Réclamer la fête, revendiquer nos droits. Il ne faut pas tomber dans le piège du « soit l'un, soit l'autre ». Un festival comme Fierté Montréal est à la fois une fête et un espace de revendication. Il peut accueillir des spectacles et des débats, des DJ et des ateliers éducatifs, susciter les échanges et les rencontres, favoriser le réseautage et le recrutement communautaire, proposer des danses, des expositions, des parades et des panels sur les droits LGBTQIA+. Tout cela et bien d'autres choses encore, avec l'intention politique de célébrer nos identités et nos acquis, oui, mais aussi de dénoncer les injustices envers les personnes LGBTQIA+, de mobiliser les gens, de soutenir les plus vulnérables. Dans un monde qui voudrait parfois nous voir rentrer dans le rang, la fierté continue de se réinventer, de faire du bruit, de rayonner. Refuser la joie, ce serait donner raison à celles et ceux qui souhaitent nous faire taire ou disparaître. Embrasser la fierté, c'est affirmer notre droit de vivre pleinement. C'était « Célébrer pour résister », une chronique d'Yves Lafontaine parue le 9 août 2025 dans le magazine Fugue.